Le journal et Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mardi commence avec le retour du débat sur le travail du dimanche.
Deux salariés du magasin Cora près de Saint-Malo licenciés pour avoir refusé de travailler un dimanche. Pas d'indemnité, pas de préavis. Est-ce bien légal? Les syndicats vont au prud'homme. Le Vatican réclame des solutions pour protéger la vie de Vincent Lambert. Les traitements ont repris ce matin. L'église sort du bois. Dans l'actualité encore de cette fin de journée, une soupe de plastique au large de la Corse. Des déchets qui forment une île de plusieurs kilomètres. Theresa May à Londres propose un nouvel accord de Brexit pour sortir de l'impasse. L'Europe et ses méthodes pour inciter les jeunes à voter dimanche à coups de musique et de trottinettes. Trois petits nouveaux en bleu sur la liste de Didier Deschamps. Et puis du glamour à l'instant même sur le tapis à Cannes. Cri et hystérie. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tarantino sur les marches. On ira faire un tour à la fin du journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, on parle d'homosexualité en Afrique. On attend théoriquement pour le 24, donc à la fin de ce mois, un jugement très important au Kenya qui doit déclarer anticonstitutionnel ou pas les lois criminalisant l'homosexualité. Ce jugement a été repoussé jusqu'à présent. Mais que dit l'Afrique sur ce sujet? Attention aussi à ne pas la prendre comme un ensemble homogène. On en parle avec le premier invité d'un jour dans le monde. Nous sommes en Irak avec des enfants soldats aussi qui ont servi, contraint l'État islamique et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Puis 19h20, le téléphone sonne. On va parler de l'argent que vous avez dans vos poches ce soir, le cash. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Le paiement par carte bleue est partout. Le sans contact a été multiplié par 1000 en 5 ans. Et pourtant, un sondage cette semaine dit votre attachement au cash, au liquide, aux billets, aux pièces, à l'argent palpable. On en parle ensemble au 01 45 24 7000. Licencié donc pour avoir refusé de travailler le dimanche.
C'est ce qui est arrivé à deux salariés du magasin Cora de Saint-Jouan-des-Guérets près de Saint-Malo. Licenciés pour faute grave, sans préavis, sans indemnité et après des années de maison. Soutenus par les syndicats, ces deux employés devraient saisir les prud'hommes car même si l'enseigne a décidé d'ouvrir tous les dimanches, rien de tel n'est stipulé dans leur contrat de travail. Reportage Céline Guettaz de France Bleu Armorique.
Christelle a découvert sa lettre de licenciement en revenant de quelques jours de congé. Et après 18 ans de travail en caisse, à la station-service ou à la bijouterie, sans jamais un jour de retard ou un reproche, elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à une telle nouvelle.
Être jetée comme moins que rien au bout de 18 ans de boîte, alors ça me... Parce que j'ai refusé de travailler un dimanche. Sur ma lettre, c'est bien marqué, insubordination, hein, comme vous voyez. Et c'est bien marqué. Au vu de ces éléments, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave. Donc faute grave parce que j'ai pas travaillé un dimanche. Moi, je suis désolée. Le dimanche, c'est personnel, c'est vie privée. On a autre chose à faire le dimanche.
L'hypermarché a décidé d'ouvrir tous les dimanches depuis un an, au rythme de 4 ou 6 dimanches travaillés par an pour chacun de ses salariés, sans qu'ils aient vraiment le choix. François Macaire est juriste à la CFTC en Ille-et-Vilaine. Il soutient le dossier de Christelle et celui d'un autre salarié du magasin devant les prud'hommes.
Il n'y a aucune loi qui impose à un salarié de venir travailler le dimanche. Et les salariés ont tout à fait le droit de refuser de travailler un jour qui n'est pas prévu au contrat.
Et dans les deux dossiers, le juriste n'a trouvé aucune mention de possibilité de travail le dimanche dans leur contrat de travail.
Une matinée de mobilisation devant l'usine de General Electric à Belfort. Un millier d'emplois aujourd'hui menacés, alors qu'en rachetant la partie énergie d'Alstom il y a 4 ans, le groupe américain s'était engagé à faire tout le contraire, c'est-à-dire justement à créer 1000 postes. L'intersyndicale espère une intervention d'Emmanuel Macron. Et puis des nouvelles de Parcoursup cet après-midi. La ministre Frédérique Vidal annonce que 72% des lycéens ont d'ores et déjà une proposition d'admission. En revanche, aucun chiffre sur le nombre de candidats victimes d'une erreur d'affectation la semaine dernière.
Les traitements ont donc repris pour Vincent Lambert.
Décision surprise hier soir de la Cour d'appel de Paris et la foule réunie alors pour soutenir les parents de Vincent Lambert qui crient sa joie. L'avocat va jusqu'à parler de remontada, hystérie du débat autour de ce jeune homme tétraplégique et dans un état végétatif irréversible depuis plus de 10 ans. Même l'église restée discrète sur l'affaire jusqu'ici est sortie du bois ces derniers jours. Prise de parole des évêques de France, du Vatican, pas plus tard qu'aujourd'hui, le Vatican qui réclame des solutions efficaces pour protéger sa vie. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Un signe de plus ce soir, la 11e veillée pour la vie à Saint-Sulpice à Paris, dédiée à Vincent Lambert.
Et pourtant, ne pas interférer dans une histoire familiale douloureuse, ne pas la rendre plus compliquée encore, rester discret, tout cela, l'église dit le souhaiter, mais choisit de communiquer crescendo, effectivement, depuis la semaine dernière, avec en point d'orgue la veillée de prière pour la vie de ce soir. Le père Brice de Malherbe, l'une des têtes pensantes de l'église sur le sujet, assume ce positionnement.
Bien sûr que c'est délicat et que nous nous sommes posé la question parce que nous ne voulions pas rentrer dans le maelstrom, je dirais, d'une polémique.
Pourquoi maintenant alors ?
Parce qu'il y a eu tout d'un coup une accélération et à un moment donné, il faut dire d'aller du côté de la vie de la personne, toujours.
Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui sera présent à la veillée de ce soir à Paris, voit lui cette communication de l'Église comme une sorte de réponse finalement au vœu d'Emmanuel Macron aux catholiques l'année dernière.
Dans son grand discours aux Bernardins, il y a un peu plus d'un an, le président Macron avait reconnu la légitimité pour l'Église d'être l'instance qui, sans arrêt, pose à nouveau le questionnement éthique. Eh bien, nous sommes complètement dans notre mission en le faisant sur cette affaire.
Les parents de Vincent Lambert sont catholiques, traditionnalistes, mais leur position de maintien en vie de leur fils est donc soutenue du Vatican à Paris. Et tous ceux qui s'expriment publiquement aujourd'hui dans la hiérarchie catholique sont sur cette ligne, contre l'euthanasie, contre l'acharnement thérapeutique aussi, mais avec l'idée que Vincent Lambert n'est justement pas en fin de vie et que ce n'est pas, malgré l'avis de ses médecins, un cas d'obstination déraisonnable.
Julie Pietri, on attend de savoir si dans le camp d'en face, si la femme, l'épouse de Vincent Lambert, va elle se pourvoir en cassation. Coup de filet dans le milieu des militants animalistes et antispécistes aujourd'hui, une douzaine d'interpellations et de gardes à vue en région parisienne à Tours, à Nice et aussi à Toulouse. On s'en doutait, il n'y a pas que la France concernée par l'histoire de fichage chez Monsanto. Six autres pays sont dans le même cas selon le groupe Bayer. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni, sans parler de certaines personnalités liées aux institutions européennes, fichés selon leur position sur le glyphosate. Lui, on ne se demande pas dans quel camp il est. Un apiculteur toulousain envoie depuis hier par la poste des abeilles mortes au gouvernement. 20 grammes de petites bêtes dans chaque enveloppe. Emmanuel Macron a dû recevoir la sienne. Et on continuera, dit l'apiculteur, tant que le gouvernement ne s'occupera pas de protéger la biodiversité. Un tiers des ruches disparaît chaque année à cause des pesticides.
Et notre planète est décidément en souffrance.
Scénario catastrophe, mais néanmoins tout à fait crédible. Un rapport de l'Académie américaine des sciences nous dit que si on continue comme ça, les océans ne vont pas monter d'un mètre comme on l'avait prévu, mais de 2 mètres d'ici 2100. On reviendra sur ce rapport en détail dans le journal de 19h, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique qui fait mal à nos océans, le plastique aussi. Des tonnes et des tonnes de déchets plastiques dérivent actuellement en Méditerranée. Ils forment une île longue de plusieurs kilomètres au large de la Corse. Pierre-Louis Sardi de France Bleu Fréquence Amora.
Le phénomène n'est pas nouveau. Cette mer de plastique a déjà fait son apparition dans le passé au même endroit. François Galligagne est responsable de l'Ifremer à Bastia.
C'est une situation qui est chronique, c'est-à-dire que la disposition des courants fait que régulièrement on a des très très fortes concentrations dans cette zone-là. L'eau remonte dans la côte italienne et lorsqu'elle arrive sur le socle de l'île d'Elbe, de l'archipel toscan, en fait, elle ne peut pas passer. Et donc à ce moment-là, elle va s'engouffrer dans le canal de Corse. C'est la raison pour laquelle on a des plus fortes densités.
On a une idée de sa taille actuellement ?
Alors en fait, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Simplement au maximum, si vous voulez. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des phénomènes qui ne sont pas permanents. Lorsqu'on parle des îles de plastique dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, c'est des courants qui sont permanents et donc on a toujours aux mêmes endroits les accumulations. En Méditerranée, ce sont des zones d'accumulation qui sont temporaires, de l'ordre de quelques jours ou quelques semaines, ou au maximum 2-3 mois.
Cette mer de plastique, d'autres scientifiques la constatent, comme Océane Couturier, membre de l'association Mer et Huit ou dans la mission Corsicaire.
Il y a des endroits où on a une véritable soupe de plastique, où on ne peut pas compter les déchets. Vraiment, on est dans des zones d'accumulation. Le problème, au final, c'est que ce plastique va s'accumuler dans les tissus des poissons, va diffuser ses produits toxiques, et nous, derrière, on va manger ces poissons.
Les scientifiques les plus pessimistes estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons en Méditerranée.
Autre problème, ces déchets qui flottent sont très dégradés. C'est donc une fortune pour les récupérer et les recycler. Pour faire baisser l'empreinte carbone, certains militent pour une taxe kérosène. Un rapport dort toujours dans les placards de la Commission européenne. Et le ministère des Transports, qui est au sein du grand ministère de la Transition écologique, semble bien à contre-courant aujourd'hui quand il se félicite publiquement de la hausse du trafic aérien en France. Plus 5,5% en mars. C'est qualifié de belle trajectoire. Économique peut-être, environnementale beaucoup moins. De quoi hérisser en tout cas certains scientifiques et certaines ONG comme Lorelai Limousin du réseau Action Climat.
Se féliciter d'une hausse du transport aérien alors qu'on sait que ça a un impact sur une hausse des émissions de CO2, c'est évidemment contradictoire. Il faut vraiment que le gouvernement s'attelle à la réduction du transport aérien. C'est le mode de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre par personne et par kilomètre parcouru. C'est 14 à 40 fois plus émetteur de CO2 que le train. Or, ce qu'on observe en France et en Europe, c'est une hausse du transport aérien, que ce soit sur des liaisons nationales ou des liaisons entre pays européens. Et en fait, rien n'est fait aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2 du transport aérien. C'est le secteur qui bénéficie le plus d'avantages fiscaux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, on a proposé une contribution climat sur les billets d'avion dans le cadre de la loi mobilité qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale pour vraiment mettre fin justement à cette situation d'injustice fiscale et de paradis fiscal pour le transport aérien qui se fait au détriment du climat.
Lorelai Limousin du réseau Action Climat, jointe par Célia Quiré. C'est dans ce contexte que tombe sur Facebook le soutien des chasseurs à Emmanuel Macron. À 5 jours des élections européennes, le président de la Fédération des chasseurs salue, je cite, l'implication personnelle du président et sa vigilance à respecter ses promesses. Des élections européennes dont il est parfois difficile de saisir les enjeux. L'abstention sera-t-elle encore une fois la grande gagnante? Et comment motiver les jeunes tout particulièrement? On dit qu'un quart des 18-24 ans seulement devraient se rendre aux urnes. Isabelle Labéry, quand il s'agit d'attirer le jeune dans l'isoloir, pour le Parlement européen, tous les moyens sont bons.
L'application s'appelle Vote et vous. Elle est directement inspirée du site de rencontre Tinder. En 3 minutes chrono, vous y trouvez le candidat qui épouse vos idées. Face à des propositions concrètes et plus ou moins clivantes sur le mariage gay, l'immigration ou l'impôt sur les entreprises, vous dites si vous êtes d'accord, pas d'accord ou indifférent et vous découvrez celui ou celle avec qui ça match. C'est ludique, instructif. L'application gratuite est disponible en France et dans 16 autres pays. Elle a été conçue en partenariat avec le Parlement. Pour ceux qui sont encore plus jeunes, le réseau social Snapchat met à disposition une carte interactive pour localiser le bureau de vote le plus proche. Une alerte peut sonner pour ne pas oublier de sortir du lit et le petit message de profil qui va bien, j'ai voté, qui s'affiche une fois passé par l'isoloir. Enfin, pour aller mettre votre bulletin dans l'urne en musique, il y a la playlist spéciale de Spotify. Artistes à découvrir, un par pays, dont Zara Larsson pour la Suède, que du tube bien commercial, mais c'est une porte d'entrée. La plateforme propose aussi un lien vers le site officiel des élections. Bref, avec tout cela, il sera difficile de ne pas aller voter. Le jour J, dans 26 villes européennes, les trottinettes Lime, les blanches et vertes, offriront en plus le trajet jusqu'au bureau de vote.
On ne pourra pas dire que l'Europe n'a pas essayé. À propos d'Europe encore, à Londres, Theresa May propose un nouvel accord de Brexit aux députés histoire de sortir de l'impasse, avec notamment le maintien temporaire du Royaume-Uni dans l'union douanière. Plus de détails dans le journal de 19h. En bref, encore à l'étranger, on retiendra cette image en Espagne. 5 indépendantistes catalans, élus aux dernières législatives, sortis de prison juste le temps de prêter serment comme parlementaires. Le foot et 3 petits nouveaux chez les Bleus. Didier Deschamps a donné sa liste tout à l'heure pour les éliminatoires de l'Euro les 8 et 11 juin prochains. Le sélectionneur de l'équipe de France fait entrer le défenseur de Barcelone, Clément Lenglet, le latéral droit de Lyon, Léo Dubois, et puis le gardien de Lille, Mike Maignan.
Allez, le meilleur pour la fin. Hélène, nous partons pour Cannes.
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, c'est déjà un beau combo. Rajoutez Tarantino et voilà le tableau. 25 ans après sa palme d'or pour Pulp Fiction, 10 ans après son pas de danse pour Inglourious Basterds avec Mélanie Laurent, Tarantino est donc de retour avec Once Upon a Time in Hollywood. On imagine un peu l'hystérie collective en bas des marches. Vous êtes tout en haut, Delphine Evenou. L'équipe du film vient de vous passer sous le nez, chanceuse. Alors le show était-il au rendez-vous?
Un show à l'américaine, Hélène, très professionnelle, des autographes généreusement distribués, des sourires sur demande, smoking impeccable, cheveux gominés, tenue pailletée pour Margot Robbie. Une petite déception, toutefois pas de danse sur le tapis rouge cette fois pour Quentin Tarantino. Une montée très sobre, très contenue, au contraire des photographes qui ont hurlé à en perdre la voix pour obtenir le cliché. Au contraire aussi de la foule massée, massive aux abords des marches du palais pour apercevoir ce couple Brad Pitt-Leonardo DiCaprio encore jamais réuni à l'écran et une ambiance digne des glorieuses années 90. Au modulomètre, match nul entre les deux acteurs, hurlements pour tout le monde. Pancarte Brad-Leonardo avec des cœurs brandis, la foule est bien plus immense que pour les autres montées des marches. L'ambiance a été électrique toute la journée à Cannes et David photographe, cela fait bien 3 ans qu'on n'avait pas vu de tapis rouge aussi glamour, d'autant plus excitant que Once Upon a Time in Hollywood, vous le savez, a failli ne jamais arriver jusqu'à Cannes. Encore un montage quand Thierry Frémaux en avril a annoncé la sélection officielle. Quentin Tarantino a travaillé jour et nuit pour être présent et il s'apprête donc à présenter son film au Grand Théâtre Lumière pour une potentielle deuxième palme d'or après celle obtenue en 1994 pour Pulp Fiction. À Cannes, Florent Layani, Delphine Evenou pour France Inter.
Voilà, les deux beaux gosses quand même, hein, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sur la croisette. On pourrait dire que ça a été le clou de ce festival. Eva Bétan nous parle du film quand même, du contenu du film, tout à l'heure à 19h.
Allez, à tout de suite. Hélène Roussel, n'allez pas loin pour ce qui vous concerne. Vous revenez dans un jour dans le monde.
Eh bien oui, on vous embarque ce soir au Machu Picchu en vol direct. Bientôt un aéroport international au pied de la montagne sacrée des Incas. Ça paraît fou et anachronique, pourtant c'est bien vrai. On ira aussi au Japon, Osaka, ville hôte du G20 fin juin. Pour l'occasion, le Japon cache son côté obscur. Le quartier chaud de la ville sera fermé, les prostituées en vacances forcées. Et puis c'est ce qu'on appelle une méga boulette. En Australie, le billet de $50 imprimé 46 millions de fois avec une faute d'orthographe. C'est ballot.
Comme vous dites, allez, ce soir on parle aussi d'homosexualité en Afrique avant que peut-être on décriminalise l'homosexualité au Kenya. Nous allons en Irak rencontrer des enfants soldats qui ont servi sous Daesh. Et puis le standard est ouvert. Nous aussi, tiens, on va parler d'argent dans le téléphone sonne. On va parler de cash, de fric, de flouze, de grisby, de pognon, de thunes, de blé. On parle d'argent liquide, celui que vous avez dans les poches, celui qui sert à acheter une baguette, celui qui sert au café sur le comptoir, alors que les achats se dématérialisent partout. En France aussi, nous sommes encore très attachés à l'argent liquide. On essaiera de voir ça ensemble. Puis toutefois, j'arrive à aligner deux mots et c'est pas gagné, tiens.
Allez. La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas, tout ça c'est à cause des averses en fait. Celle de ce soir, mais quand même si ce sera plus calme demain, ce sera pas top non plus.
Ouais, c'est vrai que ces derniers jours, on aligne surtout les nuages et les averses. Hein. Les averses et les orages qui sont encore assez nombreux en ce moment, notamment en Alsace et entre la Normandie, l'Île-de-France, le Poitou-Charente et l'Auvergne, vont progressivement s'estomper ce soir. Les dernières averses devraient d'ailleurs disparaître vers minuit ou 1h du matin. La journée de demain s'annonce plutôt bien ensoleillée. Il faudra tout de même composer avec de nombreuses grisailles matinales et une ambiance un peu brumeuse, en particulier entre les vallées du Massif central, les de Loire et la Champagne, ainsi qu'en plaine d'Alsace et sur le Nord-Bretagne. Ces brouillards et nuages bas vont se dissiper plus ou moins rapidement et le soleil va s'imposer sur de nombreuses régions demain. On gardera quand même un peu d'instabilité sur les Alpes du Sud avec de nouvelles averses localement orageuses l'après-midi pouvant glisser vers les plages de la Côte d'Azur. Et puis des nuages vont aborder les côtes de la Manche entre le Cotentin et le Boulonnais dès demain matin et vont même gagner du terrain l'après-midi glissant jusqu'en Normandie, au bassin parisien, à la Marne et aux Ardennes.
Et sinon, nouvelle hausse des températures.
Oui, hormis quelques plages de la Manche et de l'Atlantique, quasiment tout le monde verra le mercure dépasser la barre des 20 degrés. Prévoyez 20 degrés à Lille et Aurillac, 21 degrés à Nancy, Bourges et Brest, 22 degrés pour Paris, pour Limoges et pour Tarbes. On ira jusqu'à 23 degrés à Lyon et à Nantes, 25 à Toulouse, 27 degrés pour Istres et au Cap d'Agde, alors qu'il fera seulement 17 degrés au Havre.